Tu le vois en live. Ça te fait quoi en fait?
C'est trop bizarre.
Hein?
Ah,
ok. Parce qu'en fait, elle suit tous les cours. Elle vient de France, donc elle suit les cours. Alors, je dis, alors elle vit avec nous en fait toutes les semaines. Elle vit avec le cours de Ranana, le cours de Tel Aviv. Et là, elle est en live. Je lui dis, bon, tu me vois en live, donc.
Super.
Ok, Baruch Hashem. Bah écoute, Baruch Haba, moi, c'est une grande surprise. Ok, alors. Je voulais qu'on parle un petit peu de... on est dans la paracha de Vaera. C'est la paracha où Moshe Rabbeinu, il y va chez Pharaon pour lui dire, écoute, il faut que tu laisses mon peuple sortir. Et il y va, bien sûr. Je vous fais en très, très raccourci, parce que je veux arriver quelque part. Et c'est bon oui, ça s'enregistre. Et donc, il y va, bien sûr, avec l'angoisse dans le cœur, parce qu'il savait très bien que ça allait être la galère. Et il ne s'est pas trompé, d'ailleurs. Et donc il y va, et en fait à chaque fois qu'il dit les plaies, les machins et tout, et vas-y Paro, il se trappe encore, il devient encore plus dur et encore plus dur. Et donc il se dit mais je vais me faire tuer en fait par les Bnei Israël, d'accord, c'est comme si que maintenant je viens, je te dis écoute, tu sais quoi, viens, je t'ai préparé une semaine de vacances de folie. Tu dis bon, t'y crois pas trop, parce que dans ta tête, t'es tellement fermé. Et puis t'arrives. Et puis tu vois qu'en fin de compte, il n'y a pas de vacances, c'est la galère. Et t'as envie de faire quoi? Venir me prendre, me tuer, me dire qu'est-ce que tu m'as fait? J'étais très bien là où j'étais. D'accord? C'était ça, en fait, l'idée. Alors, ici, Rabbi Nathan, donc il amène une explication sur le truc quand il dit « Et le cœur de Pharaon, il s'endurcit. » D'accord? On va essayer maintenant de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce cœur de Pharaon qui s'est endurci. Alors, il y a marqué comme ça que, d'abord, tout ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte et tout ce qu'on a vécu en Égypte, en fait, il ne faut pas vous dire c'était il y a 3000 ans. Ou... Non, c'est là aujourd'hui. C'est ce qui est en train de m'arriver à moi aujourd'hui. Parce que tous les exils, en réalité, d'accord, quand on parle d'un exil, que ce soit un exil général ou un exil personnel, c'est comme tu dirais, c'est comme si tu étais en Mitzrayim. Pourquoi? Parce que Mitzrayim, c'est vient du mot Sitsar. C'est-à-dire, quand tu es dans une épreuve, quand tu es dans un problème, ça veut dire que tu ne vois rien. Donc ton esprit, ta vue, elle s'est rétrécie. D'accord? Merci, tu es très gentil. Merci beaucoup. Ta vue, elle se rétrécit. Ok? Donc, et ça, on le vit tous quand ça ne va pas dans nos vies, quand on a un problème, quand on a une épreuve, ben automatiquement, tout devient comme ça, très rétréci, on ne sait plus et on n'est pas bien. Et c'est exactement ça. Donc ici, il te dit Rabbi Nathan, il te dit, sache que tout ce qui s'est passé en Égypte et tout l'exil de l'Égypte, c'est aussi ce que toi, tu vis aujourd'hui. Ne crois pas que tu es sorti d'Égypte. Tu es toujours en Égypte. Alors tu vas me dire, ben non. Ben si. Pourquoi? Vous savez qu'en Égypte, d'abord, c'était une prison exceptionnelle. Parce qu'en fait, ce n'était pas une prison. L'extérieur, c'était libre, c'était ouvert. Si tu voulais le matin te lever et dire « bon, ben, je m'en vais », tu pouvais partir. Personne ne te retenait. C'était une prison et c'était, en fait, tout était dans la tête. Ils étaient esclaves et emprisonnés dans leur tête. Ce n'était pas comme tu disais, c'est une prison fermée et tu ne peux pas bouger. Donc, tout ce qui s'était passé là-bas, en fait, c'était surtout dans sa tête. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je reviens là-dessus, que Rabbi Nathan, il nous dit, Bémet, que si tu réfléchis bien, aujourd'hui, tous tes problèmes, toutes les histoires, où est-ce qu'ils sont? Dans ta tête. Tu es enfermé par rapport à tes idées, par rapport à ton passé, par rapport ce que tu voudrais être. T'es bloqué par une société, t'es bloqué par une famille, t'es bloqué par tes peurs, tes angoisses, t'es bloqué par tout ça, d'accord? Bon, donc, on voit que Bémet, d'accord, ça c'est, ça veut dire qu'on avance comme ça. Après, il dit comme ça que, en général, pourquoi on dit que le cœur de Pharaon, il s'est endurci? Il aurait dû au contraire dire, écoute, on se tape les galères, des plaies. Qu'est-ce que je fais, moi, avec tout ça? Partez, rentrez chez vous. Si, par exemple, tu as quelqu'un qui vient chez toi et qui t'embête, d'accord, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, bon, tu sais quoi, vite, je fais. Voilà, vous voulez ça, au revoir et merci. Tu veux terminer. Là, non. Pharaon, il s'était gêné à chaque fois. Et encore, non, et encore, et encore. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a marqué comme ça que dès qu'un homme, il veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, dès qu'un homme, il veut se renforcer dans le service divin, d'accord ? Les forces du mal, elles vont se déchaîner contre lui et elles vont tout faire pour qu'il reste avec lui. Donc, c'est... Et Pharaon, c'est quoi ? C'est le Satan, c'est le Yetzer Hara, c'est ça, Pharaon. Donc, Pharaon, en réalité, d'accord ? Plus tu veux partir, plus lui, il va déployer toutes sortes, d'accord, de manigances pour te dire, tu restes ici, tu bouges pas. Encore une fois, viens maintenant, on se met nous dans notre situation à nous, d'accord ? Combien de fois tu veux faire des choses ? Tu veux avancer, tu veux sortir de tes trucs, et combien de fois tu es bloqué, tu peux pas bouger, impossible de faire quoi que ce soit, d'accord ? Donc, tout ça, on voit que donc il te dit à chaque fois ça s'alourdit, ça s'alourdit. Maintenant, plus tu vas vouloir te rapprocher de la vérité, d'accord, la vérité absolue, qui est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et plus automatiquement on va t'empêcher. Et plus tu vas vouloir te rapprocher d'une vérité absolue qui va te sortir en fin de compte, d'accord, de ta zone de confort, et plus ça va devenir difficile. C'est-à-dire que tant que tu restes dans ton petit mensonge, que toi, bien sûr, si tu ne prends pas conscience, tu peux dire, ben non, c'est pas un mensonge. Pourquoi ? Parce que c'est rare quelqu'un qui te dit, ben moi, je vis dans le mensonge total. Je n'ai pas connu encore quelqu'un comme ça. Qui te dit, moi, chacun, il a sa vérité, d'accord ? Donc, mais plus ta vérité, elle est proche du mensonge, et plus bémette qu'on va te laisser tranquille, d'accord ? Maintenant, à partir du moment où tu veux commencer à sortir un petit peu de ton mensonge, là, tu vas commencer à sentir qu'il y a des difficultés. Et plus tu vas vouloir arriver vers une vérité absolue, c'est quoi la vérité absolue ? Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a plus de place pour le mensonge. Je vais te dire encore plus que ça, presque, il n'y a plus de place pour le libre arbitre. Parce que c'est fini, tu connais une vérité absolue, donc... Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas encore... À qui tu vas mentir ? Tu vas te mentir à toi-même ? Tu vas vivre dans... C'est fini, tu connais une vérité. C'est ça la vérité absolue. Donc ça veut dire que cette vérité, en fait, elle ne va plus te laisser tranquille. Cette vérité, elle va t'emmener, en fin de compte, à opérer un changement total en toi. Tu comprends bien que si tu t'accroches à cette vérité, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il va faire lui ? Il ne va pas se déchaîner. Ça veut dire que tu vas recevoir la tannée de ta vie. On va te prendre et on va te faire tout comme un milkshake ou quelque chose comme ça. Tu peux pas bouger, c'est impossible. Il y a pas, il faut que tout pour te faire abandonner. Et tout ton travail à toi, c'est quoi ? C'est justement de rester, d'accord, accroché, de dire je lâche pas. À un moment donné, ça va se calmer. Mais d'abord, il faut faire sortir toutes les impuretés. C'est comme un verre d'eau. Tu prends un verre, d'accord ? A priori, le verre, l'eau, elle a l'air propre. Tu prends cette même eau, tu la verses dans une casserole et tu vas la faire bouillir. Qu'est-ce qui va sortir ? Toute la saleté. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu prends un verre, toute la crasse, elle descend en bas. C'est-à-dire à tel point que tu ne te rends même plus compte combien tu pues et combien tu es crasseuse toi-même. Puisque c'est en bas. Tu t'es habitué à ta crasse. Elle est là. Mais quand maintenant, d'accord, tu commences à faire une vraie remise en question et que tu vas commencer à chercher et que tu dis, mais... Pourquoi je suis là, Hachem ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Akadosh Baruch Hu, comment je peux faire pour te faire plaisir ? Comment je peux faire pour te faire kiffer, Ribono Shel Olam ? Qu'est-ce que je dois faire ? Quand tu vas commencer à chercher tout ça, là, qu'est-ce que tu fais en fin de compte ? Toute la crasse qu'il y avait en bas, tout, tu commences à la faire bouger. Et donc, tu prends peur toi-même. Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand justement tu commences à vouloir te rapprocher, eh ben, le Yetzer Hara, au lieu de te dire « Kol HaKavod, c'est bien, tu prends des bonnes décisions à partir de maintenant », il se dit « Non, tu sais qu'est-ce que je vais faire ?» Tout ce qui est en bas, tous les vices, toutes les passions que la personne elle a, tous les mauvais traits de caractère qu'elle a, tu sais quoi ? Je vais tout faire relever. Alors toi, quand tu vois ça, tu prends peur, tu dis « Eh, Nahon, on a dit que tout était en bas, maintenant on va faire bouillir. » Parce que quand tu te rapproches du Emet, en réalité, tu passes à la casserole et on va te faire rissoler. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit « Mes élèves, mes talmidim, je les aime bien rissolés. Pourquoi ? Parce que oui, c'est ça. Il y a qui c'est qui va te faire ce travail ? C'est le tzaddik. Il n'y a que le tzaddik qui a une telle grande, un tellement grand amour pour toi et en même temps une tellement grande pitié pour toi, d'accord ? Il n'y a que lui qui va être capable de te faire rissoler selon ce que tu peux faire. C'est-à-dire tous les jours un petit peu. Donc déjà, tu dois te dire, attends, Kadosh Baruch Hu, je sais que c'est toi qui es derrière tout ça. Je n'ai pas d'inquiétude. Et ne pas prendre peur de qui tu es. N'aie pas peur de ce que tu es. Parce que quand tu veux revenir et quand tu veux sortir justement de ton mensonge et de ta zone de confort, la vraie vérité, c'est que tu vas prendre peur. Il y a des fois des gens, je les entends me dire, mais il y a des choses que je n'avais pas et pitom, ça s'est réveillé. Non, ce n'est pas que ça s'est réveillé. Tout est en toi. Tu sais, on dit que tout est tapis, mamache, dans l'homme. Toutes les passions de ce monde, toutes les folies de ce monde, tout est en toi. Seulement, des fois, ça dort. Ça dort. Mais quand toi, maintenant, tu viens et tu dis, je veux me réveiller, j'en ai marre de dormir, j'en ai marre d'être anesthésiée, ça fait 40 ans que je suis anesthésiée, je ne fais rien de ma vie. Je veux me réveiller maintenant. On te dit, tu veux te réveiller ? Ok, d'ac. Allez, on y va. Et là, on commence. Tu boues, et tu dis, oula, qu'est-ce qui se passe ? Pitom, tu t'aperçois très nerveuse. Pitom, tu t'aperçois que tu as toutes sortes de vis cachées, que tu te dis, mais c'est honteux, comment je vais faire ? C'est pas possible. D'accord ? Pitom, tu t'aperçois des goûts pour, je sais pas, pour l'alcool, pour certaines choses, toutes sortes de choses, pour l'alimentation. Des fois, des personnes, elles te disent, ben non, moi, la bouffe, ça va et tout. Puis d'un coup, ça commence à devenir un peu boulimique, ça demande... Bon, toutes sortes, d'accord ? Chacune, je pense que chacune, si elle cherche le Emmet, elle va, d'elle-même, elle va chercher et elle va se dire, oui, c'est vrai, il y a des choses, d'accord ? Des fois aussi, tu peux dire, bah, tu sais quoi, c'est pas chez moi, c'est chez mon mari. Il était très bien et ton mari, en fait, c'est toi. C'est-à-dire, toi et ton mari, vous êtes la même personne. Donc, des fois, à travers ton mari, d'accord, tu vas te retrouver dans des situations... Et en effet, il va falloir que tu bosses là aussi. Ça veut dire que tu gardes ton self-control, tu commences à rester, tu vois, par exemple, une personne, elle juge tout le monde très bien. Tout le monde est super, elle te fait des sourires, elle est sympathique, elle est agréable et tout ça. Bon. Puis d'un coup, donc, elle commence à vouloir bosser. Et là, pour faire le vrai travail, c'est avec qui que tu vas faire ton vrai travail ? Avec ? Non.
Avec ton mari.
Avec ton mari. Avec ton mari qui est là devant toi, avec tes enfants, ça veut dire les proches, ceux avec qui tu comprends, tu vas pas commencer, tu peux pas faire du tménik. Tu peux faire tménik dehors, une heure, deux heures, tu sais, le temps d'une soirée, le temps d'un après-midi, j'en sais rien. Mais tu peux pas faire tménik 24-24, c'est pas possible. C'est ta nature profonde qui ressort, d'accord ? Donc, encore une fois, à travers les gens les plus proches, eh bien, là encore, Akadosh Baruch Hu, il va te faire travailler. C'est soit tu dis, moi, je comprends une chose, je dois faire un travail, moi, pas la personne d'en face. La personne d'en face, c'est pas moi qui dois m'en occuper. Déjà que je m'occupe de moi, c'est déjà pas mal. Ne cherche pas à éduquer l'autre. Ne cherche pas à rendre l'autre meilleur. Deviens-toi meilleur, c'est bien. Si déjà tu deviens meilleur, tu verras qu'autour de toi, ça deviendra meilleur aussi. C'est comme ça, c'est magique, mais c'est comme ça. D'accord ? Donc, chacun, d'accord, il va chercher Bémet, il va commencer à réfléchir et à se dire, ben, c'est vrai que des fois, dès que je veux faire quelque chose de bien, hop, on veut me couper, d'accord, l'herbe sous le pied. Et donc, regarde comme il te dit comme ça, Rabbi Nathan, je veux le lire pour que ça rentre bien en nous. Il dit comme ça, en effet, lorsque le mal voit se présenter un juste authentique, que symbolise Moshe Rabbeinu, qui vient pour libérer donc Israël de son exil spirituel, parce qu'encore une fois, l'exil dans lequel on était, c'était pas tellement un exil physique, encore une fois. C'était un exil spirituel. Et c'est le pire des exils. Il n'y a pas pire que l'exil spirituel, parce que quand tu es... Moi, je dis toujours comme ça. Alors, on peut ne pas être d'accord, mais... En tout cas, moi, j'ai réfléchi et je me dis, ben, il marchait mot, Hitler. Lui, en réalité, il a voulu détruire un peuple, d'accord, physiquement. Il marchait bon. Mais en réalité, on est toujours là. Parce que spirituellement, d'accord, on a quand même gardé, on a quand même recherché, on est rené de nos cendres. Mais l'exil dans lequel on est aujourd'hui, d'accord, il est pire en réalité. C'est une Shoah qui est encore pire que ce qu'il y a eu. Pourquoi ? Parce que quand une personne, elle oublie son judaïsme. Et quand on voit toute l'assimilation qu'il peut avoir, c'est-à-dire ne restez pas vous fermés dans votre petit cocon de Tel Aviv, d'accord, ou d'Israël. Regardez ce qui se passe dans le monde. Combien de personnes qui se marient malheureusement avec des non-juifs. Et ça, c'est Bémet, que c'est pire qu'une Shoah, parce qu'une fois que tu es avec un non-juif, c'est fini. Tu es perdu, tu t'es perdu, tes enfants vont être perdus. Tu as perdu une partie, on a perdu une partie de nous-mêmes. Donc, il n'y a pas pire que l'exil spirituel. Tu peux me mettre en prison, tu peux m'interdire tout ce que tu veux. Tu peux me dire, tu sais quoi, allez, tu ne fais pas Shabbat, je t'interdis. D'accord. Mais là, dans ma tête, je fais Shabbat, je fais Kashrout, je me rappelle, Hachem, je suis en contact avec toi. Je vis encore. Par contre, quand tu me dis, fais ton Shabbat, fais ta Kashrout, fais tout ce que tu veux, mais que dans ma tête, je ne suis pas connectée. Que dans ma tête, en réalité, je suis comme un robot. Que quand je fais les choses, ben, ça pèse 3 tonnes. Et qu'en réalité, je n'ai pas envie de les faire. Ça, c'est le danger. Quand tu n'es pas connecté avec Hachem, parce que ce n'est pas le tout. Tu peux dire, j'ai fait toute ma vie Shabbat, toute ma vie la cacheroute. Mais en réalité, tu l'as fait comme un anesthésie, comme ça, quelqu'un qui anesthésie. Tu ne le vis pas. Tu ne vis rien. Tu es un robot. Il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas, y a rien. T'es comme un mort en fin de compte. T'es un robot, tu fais les choses, voilà, c'est Shabbat, bon, on fait Shabbat, alors vas-y, je fais mon repas, j'allume mon truc, tiens, c'est je fais. Chaque chose, elle se fait comme ça. Non, tu dois vivre tes choses, faut que tu cries, faut que tu implores, faut que tu supplies Hachem. Faut que tu supplies Hachem d'avoir un cœur qui bat, pas une pierre qui est là, bon, ben là, c'est l'heure maintenant, là, on peut appuyer sur ta, ça va être l'heure ça, maintenant, c'est comme ça. Non! C'est pas ça qu'il veut Hachem. Hachem, il n'en a rien à faire de ça. Hachem, il préfère que tu te battes, que tu montes, que tu descends, que tu vis. Mais qu'à chaque fois, même au plus bas, t'appelles Hachem. Tu sais quoi ? T'as pas fait une mitzvah. Tu avais une occasion de faire une mitzvah, tu l'as pas faite. Pas tu fais style, bon, je l'ai pas vu, je passe, et puis on y va. Non, Hachem, j'aurais pu faire cette mitzvah, je l'ai pas faite. Je sais, c'est pas bien, mais j'avais pas envie. Tu sais quoi ? T'es maître. T'es sincère, tu parles avec Hachem, ça veut dire il y a un contact, ça vit. Mieux ça que soi-disant faire les choses, enfin, mais tu vis les filles sans cœur, sans goût, sans rien du tout. Prépare un couscous pour ceux qui mangent le couscous. Ne mets rien dans le couscous. Tu l'as fait à la mode francophone. Je ne vais pas dire ashkénaze parce qu'il y a des ashkénazes. D'Afka, moi j'aime bien manger ashkenaz. Ils mettent du poivre, les Hongrois. Ils aiment bien mettre que ce soit épicé. Tu la mets à la mode, c'est-à-dire tu as mis tes légumes, tu as oublié le kosbara, tu as oublié le truc, tu as mis les légumes morts comme ça, et tu mets ni sel, ni poivre, ni rien. Ça veut dire la rose, tu sais tout quoi, les 4 épices, tu mets rien. Comment il a l'air ton couscous, je t'en prie? C'est un couscous pour malade. Hein? Fadas, c'est-à-dire voilà. Mais par contre, les odeurs, et vas-y, tu mets les fleurs, les plantes, les machins, les élites, tu vois, c'est-à-dire de loin, tu sens l'odeur. Je sais pas, c'est pas pareil. Là, voilà, c'est pareil. Hachem, lui, il veut quoi? Il veut que tu mettes des épices, il veut que tu mettes ton cœur, ton amour, ta simra, tes paroles. C'est ça ce qu'il envie d'Hachem. Fais un petit truc, tu sais quoi? Mets moins de légumes dans ton couscous. Mais mets de l'amour, mets de la joie, sois contente de préparer, sois contente que tu es juive, que tu vas faire un Shabbat. Sois contente, combien il y en a, les pauvres, ils font pas le Shabbat. Toi, tu as le mérite de faire le Shabbat. Sois contente de ça. Remercie Hachem, dis-lui, mais Hachem, tu te rends compte? Pas seulement que je suis juive, mais en plus, tu me donnes le mérite de pouvoir préparer le Shabbat. C'est pas donné à tout le monde, il y en a plein qui le font pas. Non, non, je vous ai parlé du Shabbat, mais je vous parle de tout. Tu fais Netilat Yadayim le matin. Sois contente que tu fais Netilat Yadayim. Combien ils ne le font pas? Toute chose, dans chaque chose, tu prends conscience, d'accord, de tes capacités. Tu prends conscience que tu as une âme. Et qu'avec cette âme, eh ben, tu vas servir Hachem à ta manière, à toi. Ça n'existe pas quelqu'un, d'accord, que tu dis, bah, de toute façon, il ne fait pas, alors il est naze. Non, il n'y a pas un juif naze au monde. Le juif le plus éloigné, à partir du moment où il se rappelle qu'il est juif et qu'il a un petit contact avec Hachem, chacun, comment il commence. Mais pour Hachem, ça, c'est un plaisir immense. Hachem, il s'enorgueille de chacun de ses enfants. Akadosh Baruch Hu, il prend plaisir et il s'extasie de chaque petite chose. Donc, on voit que, Bémet, qu'à partir du moment où, dès que, d'accord, un tzaddik qui vient pour te sortir de ton exil, donc il te dit comme ça, alors donc le mal se dresse contre lui avec plus de force. Il alourdit le joug de ce monde, les passions et vices, les nécessités de la subsistance, de la parnassa, jusqu'à l'empêcher de bouger de place pour revenir vers Hachem. Ça, on connaît ces situations. Combien de fois, des fois, tu es vraiment t'es bloqué, d'accord? Maintenant, si tu réfléchis bien, qu'est-ce qui t'a bloqué? C'est tes pensées. Personne t'a dit, reste bloqué dans un lit, tu ne bouges pas aujourd'hui. Personne. C'est toi et toi-même. Ron? Qu'est-ce qu'il te dit ici, Rabbi Nathan? Il te dit, mais maintenant, attention. La réaction du peuple juif, c'est quoi? Elle consiste justement à garder les chemins de nos pères. C'est quoi garder les chemins de nos pères? Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque, depuis toujours? C'est de crier vers Hachem. C'est la tfila. La tfila, elle a toujours existé. On n'a pas attendu qu'il y ait un livre de prière. Il n'y avait pas avant. La tfila, c'était de tout temps, on a levé les yeux et on s'est adressé à Kadosh Baruch Hu. Ça, personne ne peut t'empêcher de le faire. Personne. C'est pour ça que je te dis, tu es en prison. Yosef Hatzadik, il est en prison. D'accord? Tu es au fin fond du monde. Il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien, c'est impossible, tu ne peux rien faire. D'accord, ok. Mais crier vers Hachem, ça, quelqu'un peut t'empêcher? Tu vas me dire, tu sais quoi? On m'a scotché la bouche, on m'a cousu la bouche. D'accord, allez, on y va. Dans ta tête, quelqu'un peut t'empêcher de crier? Personne. Personne ne peut t'empêcher de crier vers Akadosh Baruch Hu. C'est uniquement toi-même qui te bloque. Pourquoi? Parce que tu écoutes, justement, tu donnes de l'importance au Yetzer Hara. Ça veut dire, c'est quoi le Yetzer Hara? C'est tes mauvaises pensées, c'est tes peurs, c'est tes angoisses, c'est, oui, mais tu comprends, ma vie, ma mère, mon père, j'étais ça, il m'est arrivé ça, là. Ça y est! Lâche! Embraye! Qui sait ici, on est combien? Qui sait qui peut dire, elle n'a jamais rien eu de sa vie? C'est déjà arrivé, une vie, t'as rien eu? T'as rien eu? Non? T'as eu quelque chose, j'imagine, tout, moi aussi, tous. Celle qui te dit non, moi pas du tout, j'ai grandi. Je me rappelle à l'époque, c'est ce que je me rappelle de Heidi, ça s'appelait.
Ouais,
Heidi, la petite maison à la prairie, c'est ça,
non,
je crois.
Non, Heidi à la montagne.
Heidi, je sais plus ce que c'était. Il y avait, je me rappelle, il y avait un truc comme ça. C'était, tu sais, comme ça, tranquille, tu vois la petite. Pas ça. Attends, c'est là qui te dit, moi j'ai vécu une enfance magnifique, tu sais quoi, mes parents, ils étaient extraordinaires. Que ces parents-là n'existent pas en plus. C'est quoi? Ouvre le Chumash, retourne dans Chumash Bereshit. D'accord? Mais tu vas voir, là-bas aussi, hein, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel, Léa, là-bas aussi il y avait des histoires de famille de dingue. C'était des histoires de dingue, ça veut dire quelque part, tu sais quoi? Ne crois pas que tu as eu une mauvaise enfance et un mauvais départ et un machin. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que dans ces cas-là, tu vas me dire, tu sais quoi? Depuis le début du monde, en fin de compte, on a tous eu un mauvais départ. Regarde, Adam Véchava, je t'en supplie, comment ça s'est passé? Une histoire de dingue. Et après, Abraham et Yitzhak et Yaakov, tout le monde. Donc, ça a été... Si, tu peux, bien sûr, d'accord, t'apitoyer sur ton sort. Tu peux. Mais je vais te dire une chose, pauvre de toi. Parce que tu sais quoi? Tu vas passer ta vie à pleurer sur ton sort, sur un passé qui n'existe plus, et tu vas passer à côté des... de ce qu'Hachem te fait vivre aujourd'hui, que c'est magnifique. Mais tu n'as même pas les yeux pour voir comment c'est magnifique. C'est pour ça que toujours, demandez à Hachem quand vous priez, si vous allumez les nérotes ou stable, quand vous parlez avec Hachem comme ça entre deux, Hachem, donne-moi les yeux pour voir tes bontés. Parce que combien de fois tu as des choses magnifiques, mais tu n'as pas les yeux pour voir. Pourquoi ? Parce que tu restes bloqué dans tes histoires et ton passé et tes lourdeurs. Alors, je ne suis pas en train de te dire maintenant, d'accord, que ta vie, c'est la vie dorée. Non, pas du tout. Souvent, les gens, ils me disent, oui, mais on dirait que tu vis dans les bisounours. Pas du tout. Au contraire, plus réel que moi, il n'y a pas. Mais seulement, tu mets Hachem au-dessus de tout. Quand, dis-toi une chose, quand tu n'es pas bien, tu es triste, tu es stressé, tu es angoissé, tu es dans l'angoisse, d'accord ? Tu es au bout de ta vie. Quand tu es comme ça, dis-toi, attends, deux secondes. Je sais pourquoi. Tout, je remets en place. D'abord, il y a Hachem, c'est au-dessus de tout. Et après, il y a mes histoires. Donc, tout découle d'Hachem. Alors déjà, hop, je prends du recul. Déjà, tu prends, t'as pas le choix. Écoute, t'as pas le choix. C'est où tu fais ça, ou je te promets, tu vas pleurer toute ta vie. Parce que chacune, tu sais quoi, chacune de nous maintenant, elle va te raconter l'histoire de sa vie, tu vas pleurer pour elle. Tu vas dire, bon, en fin de compte, ma vie à moi, elle est pas si naze. Chacune, elle a son drame. Ça n'existe pas une vie comme ça, tu comprends, sans le drame. Mais ce drame, en réalité, c'est ce qui a fait que tu es ce que tu es aujourd'hui. Et c'est ce qui fait, d'accord, que tu vas arriver à ton but final. Puisque Akadosh Baruch Hu dirige ce monde. Et que depuis le début, lui sait, il y a un début, Adam Vechava, et il y a une fin, le Mashiach. C'est marqué, plus on va avancer vers les générations Mashiach, plus on va être comme ça. Comme si, tu sais quoi, on te prend, on te met le truc et on t'étrangle, et t'as plus de souffle. Donc déjà, tu te dis, bon, tu sais quoi ? Je comprends que ce que je vis, c'est ce qu'on appelle « révélé Mashiach ». Ça fait partie, ça veut dire, tu sais, des contractions, tu vois, de l'enfantement, comme ça, entre guillemets. On est dedans. Donc, déjà, tu te dis, bon, je comprends que ce que je vis en réalité, c'est pas quelque chose de bizarre. C'est marqué dans la Torah. Et je comprends que tout ça, ça vient d'Hachem. Et pourquoi faire en fin de compte ? Pour aboutir, d'accord, à Mashiach, ça veut dire à une délivrance. Maintenant, Mashiach, tu peux le vivre maintenant aussi, si tu veux. Tu n'es pas obligé d'attendre qu'il vienne tout de suite. Rabbi Nathan, il avait dit, vous attendez votre Mashiach. Vous attendez tous Mashiach. Moi, je l'ai déjà reçu, Mashiach. Comme ça, il a dit Rabbi Nathan. Pourquoi ? Parce que Mashiach aussi, c'est dans ta tête. À toi de choisir où tu veux vivre. Tu veux vivre dans le Geinom. Donc, le Geinom, c'est l'enfer. D'accord ? Tu veux vivre dans le Geinom. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends Hachem, tu dis, bon, toi, je te prends, je te mets dans le placard, je ferme la porte et je vais vivre ma vie. Là, tu vas vivre le Geinom sur Terre. Tu peux vivre Mashiach, qui est... C'est quoi Mashiach ? C'est le goût du Gan Eden. D'accord ? Comment tu fais ? Ben, tu sais quoi ? Je prends un chien, je te sors du placard et je te mets partout. Tout ce qui se passe, tout ce que je vis, tout ce que... C'est Hachem. Tu vois plus la même histoire. Alors oui, tu vis ta vie. Ça veut dire, ta fille, elle t'a fait un problème. Ton mari t'a dit une histoire. T'as un problème de parnassa. T'as un problème de santé. L'histoire, elle est là. C'est pas comme maintenant, tu dis, il n'y a plus rien. On vit dans une réalité. Tu peux pas vivre hors dehors. Mais tu la vois différemment, ta réalité. Tu la vois avec des yeux, d'accord, différents. Où tu te rappelles que toi, d'abord, avec beaucoup d'humilité, toc. Tu te remets à ta place, tu n'es qu'un être humain, certes unique, essentiel pour le bon fonctionnement du monde, mais tu n'es qu'un être humain. Et il y a Akadosh Baruch Hu qui gère son monde. Akadosh Baruch Hu qui a des plans qui me sont inconnus et incompréhensibles. Je ne peux pas comprendre, par exemple, on va prendre une notion, d'accord ? Nous, on a grandi que Hachem, il veut qu'on fasse Torah au mitzvot. D'accord ? On est tous là, d'accord là-dessus ? Ça veut dire que tu sois religieux ou pas, on le sait, c'est marqué. Voilà, tout est marqué. Il faut que vous fassiez Torah ou Mitzvot. Je vous ai donné une Torah, vous la faites. Oui ou non ? Ok. Après, on grandit, on nous rentre quelque chose dans notre tête, on nous dit tout, c'est Hachem. Tout, c'est Hachem. On est d'accord là-dessus ? Oui ? Comment tu peux expliquer alors qu'on fait des avérotes ? Comment tu peux expliquer qu'il y en a qui ne font pas la Torah et les Mitzvot ? C'est bizarre.
Parce que Hachem te donne le choix.
Quel choix ?
Toi, tu choisis si tu veux suivre Hachem ou pas.
Mais puisque... Attends. Mais alors, dans ces cas-là, tu exclus Hachem de ton choix.
Si toi, tu décides d'exclure, il est exclu.
Oui, mais encore une fois, tu donc là, quelque part, dans ton schéma, à un moment donné, il n'y a pas Hachem.
Moi, ça dépend des pulsions. Il y a les pulsions qui habitent l'homme.
Oui, mais
un être humain, il est humain, il a des pulsions. Et c'est
qui t'a fait les pulsions ?
C'est le Yetzer Hara.
Attends, donc les bonnes pulsions, c'est Hachem, et les mauvaises pulsions, c'est qui ? C'est le Yetzer Hara. Mais qui c'est qui l'a créé, le Yetzer Hara ?
C'est un combat tous les jours entre faire ou ne pas faire.
C'est à toi de choisir.
C'est pas choisir. Des fois, on est trop faible.
Qu'est-ce que tu dis, Delphine ? Qu'est-ce que tu voulais dire ?
Moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on a un pourcentage de libre arbitre qui laisse en fait l'être humain s'améliorer. C'est-à-dire que voilà, on est fait avec des de l'humanité et aussi avec des démons, et que il y a une partie de libre arbitre, parce qu'il y a des choses qui nous arrivent, je pense, qui ne sont pas du déterminisme. Et c'est cette partie-là sur laquelle, pas on va être jugé, mais c'est sur cette partie qu'il va falloir se transcender. C'est cette partie de liberté qu'on a, qu'on peut communiquer, qu'on peut poser des questions, parce que rien n'est... voilà, parce qu'il y a une marge d'indéterminisme.
Ok. Donc, en fait, on en arrive à dire qu'il y a une partie où, en fait, il n'y a pas Hachem. Si tu vas vraiment, vraiment creuser, ça veut dire tu exclus un petit peu Hachem, même 1%.
C'est comme un parent, tu sais, avec un enfant qui va le surveiller, mais qui va un petit peu le laisser aussi sortir un peu du cadre et voir, c'est un peu ça. C'est cette partie, en fait...
Donc, c'est pas un libre-arbitre, ça veut dire qu'en réalité, toi, en tant que parent, tu as déjà géré la descente de ton fils ou de ta fille. Tu l'as programmé.
Oui, mais je ne sais pas s'il va tomber, je ne sais pas s'il va faire une bêtise, je ne sais pas s'il va apprendre de ses erreurs, ou s'il va au contraire être plus vicieux, enfin j'en sais rien.
Non, mais je comprends ce que tu dis, parce qu'en fait, quelque part, est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'aussi, sans exclure Hachem, que lui, il nous donne cette marge de liberté peut-être pour...
Pour tester ? Mais l'homme est libre, fondamentalement, il est libre, l'homme.
Bah oui, t'es libre. Attends, t'es libre de faire ce que tu veux. Si maintenant tu veux lever la main, tu lèves la main, tu baisses la main, c'est-à-dire t'es libre.
Bien sûr.
Non, mais ça, tu vois, c'est une notion hyper subtile. Donc, on en parle qu'à chaque fois, moi, je vous l'homme dessus, on en parlait avec Alex la dernière fois.
Bon, bah en tout cas, c'est une notion qui est intéressante, parce qu'au moins, vous vous êtes réveillé. C'est bien.
Oui, parce que, donc, où est le bien, où est le mal ? Si finalement, alors voilà, et nous, comme tu as dit si bien, tu as dit, tu as commencé comme ça, tu as dit, on a grandi qu'il faut faire Torah et Mitzvot. Et après, on nous apprend une deuxième chose, c'est que tout vient d'Hachem. Donc tu venais de dire tout à l'heure que donc, même quand on faute, c'était au bord. Mais on ne peut pas arriver à comprendre qu'Hachem il veut qu'on faute.
Il y a deux notions.
Parce que je peux faire quelque chose de très grave, Loal et nous, et. Et donc,
Il y a deux notions. Il y a Hachem qui
vient. Alors, oui, est-ce qu'on a une vraie responsabilité ou pas, finalement ? Moi, je pense que...
Et bien sûr, il y a une responsabilité dans ta démarche personnelle.
Parce qu'en fait, la Kadosh Baruch Hu, il s'en fout du mal. En vrai, ça lui est complètement égal qu'il y ait du mal dans le monde et. Parce que ce monde, en fait, c'est éternel.
Ben, moi, j'ai envie de te dire plus que ça. Pourquoi Hachem, il a créé le Yetzer Hara dans ces cas-là ? En fin de compte, quoi, il veut nous casser les pieds ? Franchement, il n'aurait pas pu nous créer sans avoir de Yetzer Hara et on avait fini notre histoire. Pourquoi ?
Excuse-moi.
On dirait qu'il prend un kiff.
C'est à cause de la faute.
Tu vois ce que je veux te dire ? Un kiff à dire, allez, vas-y maintenant, allez, vas-y, je te mets de Yetzer Hara. Et toi, t'es là, t'es paumé, c'est bizarre.
On se rapproche de lui.
Mais oui,
on est en... on est un retour, retour sincère vers lui. Mais Sarah, il a été créé pour ça. Bon, donc en fait, il n'y a pas de mal, quoi. Donc en fait, tu vas vers. Tu passes par des tas de chutes, tu comprends pas ce qui t'arrive, comme tu as dit tout à l'heure, le type il veut faire soi, mais non, c'est pas facile, il, d'un coup il se découvre, il découvre qu'il est plein de problèmes, de
vie. De crasse et de puanteur, n'ayez pas peur des mots.
Il s'est dit, mais comment je vais faire
Ouais, exactement. Ça veut dire qu'en réalité.
HM, s'il te plaît,
ça veut dire que.
Mais s'il y a deux choses, excusez-moi, mais il y a deux notions. Il y a la notion de ce que toi tu fais, tu décides de faire, par exemple. Tu vas aller Shabbat, tu vas aller, tu prends la voiture, tu as des. Ça, c'est ton libre arbitre.
Mais en fait,
tu l'as
fait.
Mais il y a aussi les épreuves que Dieu t'envoie. Et c'est ça, ça où tu dois, toi, travailler sur toi.
Donc, ça veut dire, attends, donc dans ta décision de prendre ta voiture ou pas, il n'y a pas HM.
Ben non, c'est ton libre arbitre qui décide. Il n'y a pas HM. Pourquoi c'est pas une épreuve.
C'est lui qui m'a
dit. Non, mais je pense qu'il est présent tout le temps comme un parent. Oui. Il est présent tout le temps comme un parent.
Ah oui,
mais
là, absolument.
Voilà, il a une sorte de bienveillance, mais aussi une possibilité que
c'est la magie.
Regarde, je voudrais. On ne va pas le finir aujourd'hui, hein, ce truc, mais regarde, je voudrais quand même vous lire quelque chose, d'accord. On s'en fout hein, qu'on n'ait pas structuré parce que c'est une sirha traverie, vous vous rappelez. Donc ça nous mènera où ça nous mènera. Et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on cherche nous? On cherche à faire la volonté d'Hachem et on cherche à l'aimer. Et à travers tout ça, on arrivera sûrement à aimer Hachem et puis sûrement qu'après on fera Yitbo des doutes chacune et Hachem il nous dirigera. Mais regarde ici ce qu'il te dit. Une autre version, donc il te dit Pharaon durcit le cœur d'Hachem. Pharaon durcit son cœur. Il marque comme ça. Parce que si je te lis que ça, bon, je te le lis, d'accord ? Bien sûr, l'Éternel, béni soit-il, s'emploie constamment à la réparation du monde, et c'est lui, bien entendu, qui a le dernier mot et conclut selon sa volonté. On va pas, je vais pas, parce que je sais que vous devez tous aller bosser, mais je vais pas maintenant vous expliquer tout. Chacune maintenant, par rapport à ce qu'on a dit, elle comprend, d'accord ? On est toutes Baruch Hashem intelligentes. Quant à l'individu mécréant et pécheur, que Dieu préserve, il n'atteint nullement l'Éternel. Puisqu'il y a marqué, est-ce lui qu'il condamne ? Comme il est écrit, si tu as mal agi, quelle est ton action sur Dieu ? Car les conceptions d'Hachem sont très profondes. Il sait tout inverser pour sa gloire et sa volonté. Car tu es au-dessus de tout, à jamais, au éternel. Et comme Rachid le commente, ta main l'emporte constamment. Néanmoins, l'éternel fait payer aux mécréants le prix de sa méchanceté. Attends, je veux juste dire, « Vafal piken ishalem Hachem leose ra'a kera'ato » qui afalpiken assour la sotte. Ok, d'accord. Bon, j'espère traduire pas super. Donc, néanmoins, Hachem fait payer aux mécréants le prix de sa méchanceté, car il nous a interdit de commettre un acte allant à l'encontre de la Torah, que Dieu préserve. Et tout celui qui nuit et détériore en outrepassant les règles divines, détériore dans tous les mondes, que Dieu préserve. Il détruit et endommage terriblement, comme rapporté dans les livres, dans tous les livres. Cependant, l'Éternel conclut toujours et il finalise toute chose selon sa volonté. Je fais un stop de minutes parce que ça, quand je l'ai lu, je me suis dit en vrai, il y a marqué comme ça que quand tu fais des avérotes, en réalité, les avérotes, elles s'inscrivent sur tes os. Et qu'en fait, les avérotes, elles vont se venger elles-mêmes sur tes os. Stam comme ça, d'accord, je vous dis un truc que j'ai eu dans ma tête, je me suis dit, en fin de compte, tu vois, là, ça m'explique bien que Hachem, en réalité, il ne te punit pas en réalité, c'est toi-même qui te punis toute seule puisqu'on a dit que les avérotes, c'est comme si tu me dis, tu sais quoi, je vais fumer 10 paquets par jour et après je m'attrape un truc. Ce n'est pas Hachem, c'est toi qui t'es fait ton propre mal, d'accord, en fumant. Donc pareil, mes avérotes, ok, vont s'inscrire sur mes os et mes os, en fin de compte, vont être attaqués. Donc ils vont, je m'attaque, en fait, c'est mes avérotes qui vont se venger sur moi-même. C'est un peu comme ça, tu vois, en lisant ça, c'est ce qui m'est venu dans ma tête, qu'en réalité... Quand tu fautes ou quoi, tu n'attaques pas Hachem, ça lui fait rien Hachem, tu lui as rien changé. Son état d'Hachem, il va rester Hachem d'une manière ou d'une autre. Lui, tu ne vas pas le détériorer, d'accord ? C'est toi qui te détériores. Ok, ça c'était ça. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Et c'est là où en réalité on... Et cet état, donc on est d'accord sur ce qu'on a dit, d'accord ? Que cependant, Hachem conclut toujours et finalise toute chose selon sa volonté.
Ça c'est super.
Attends. Et cet état de fait... Donc maintenant, regarde, il te dit comme ça. Et cet état de fait est impossible à comprendre. Sachez une chose, la notion du libre arbitre, c'est une des notions qui est impossible à comprendre pour l'homme. D'accord ? Très difficile, parce que là, tu vois, on est là. Et des fois, si tu commences à dire un mot, la personne, elle va dire, bon, alors, c'est quoi, je me laisse aller ? Non, parce que de toute façon, tu ne peux pas te laisser aller.
Excuse-moi, mais une fois dans un des cours, tu nous as fait comprendre que, en fait, le seul libre arbitre qu'on a, c'est que ce que je vis de bien ou de mal, je reste attaché à HM ou pas. C'est la seule chose qu'on a de vrai.
Bidouk. Attends. Donc, il te dit comme ça. Et cet état de fait est impossible à comprendre. Il fait partie de l'abstraction, d'accord, citée plus haut, à savoir que tout est réalisé par Hachem seul, et pourtant, tout dépend du libre arbitre de l'homme, ce qui est incompréhensible.
Ta-da-da. Donc, on ne comprendra jamais, alors.
C'est pourquoi. Parce qu'en réalité, d'accord, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Ok, mais après, c'est toi, toi avec tes pensées, justement, toi par rapport, ok, comment tu es, que tu vas dessiner ta vie. J'ai une discussion, je vais vous raconter un truc. J'ai une discussion mercredi soir avec une fille, pas mariée, la quarantaine, jamais mariée. Et elle était bloquée avec un type, ça fait un an, et bon, voilà. Et puis, je ne sais pas, dans la discussion, on a commencé à parler. Et puis, c'est comme si, quoi, je ne sais pas comment Hachem m'a mis les mots, j'ai redessiné sa vie. Je lui ai dit, non, mais tu sais quoi, lui, ça va, laisse tomber, ça va partir et tu vas te marier. Elle était avec nous à Rabbeinu, chez Rabbeinu. Donc, vous entendrez la bonne nouvelle, celle qui était avec nous. Et elle a demandé à Rabbeinu, elle a dit, je veux revenir à Tu Bishvat avec une date. Ça, je ne le savais pas. Et donc, quand j'ai commencé à lui parler, je lui ai dit, non, mais tu sais quoi, en réalité, tu vas faire comme ça, tu vas te marier, tu vas... Je ne sais pas comment, on a redessiné le dessin. Le lendemain, elle me dit, tu sais pas quoi, truc, il m'a demandé un mariage, un truc improbable. Et là, elle m'appelle, elle me dit, Yaël, ça y est, j'ai la date, dans un mois. Ça veut dire que... C'est fou. Ça veut dire qu'en réalité, tout dépend aussi... Comment toi, tu es dans ta tête? C'est toi qui vas dessiner ton histoire. Tu comprends? Ça veut dire, toi, tu es l'architecte de ta propre vie. C'est toi qui décides.
Alors, peut-être qu'à condition que, tu vois, tu es l'architecte de ta propre vie, à condition que, voilà, tu as vu Hachem dans ces temps-là.
Si tu es d'accord pour comprendre que jusqu'à maintenant, bah, tu t'es pas marié et que Hachem, il a voulu comme ça, et que comme je lui ai dit, je dis, non, mais tu comprends pas qu'en réalité, tout ton chemin de vie, tout ce que tu as passé, même l'autre que tu es resté bloqué avec lui pendant je sais pas combien de temps, machin, tout ça, mais c'était pour une préparation à ton mariage qui va se passer maintenant. Ça, c'était dans la discussion qu'on a eue alors qu'il n'y avait même pas Tratane encore.
Hein, c'est incroyable.
Mais oui, c'est ça l'histoire. Sinon, s'il y avait il y avait un truc de réserve, je t'aurais dit, c'est rien spécial. Tu comprends?
Des fois, tu vois,
tout Hachem, il te prépare, mais ça veut dire, si maintenant, tu lui aurais dit la veille son histoire, elle n'était même pas prête à écouter.
Ah oui.
Pourquoi? Parce que Hachem, quand il veut t'éclairer sur quelque chose, il te prépare. Tu ne peux pas recevoir une lumière sans avoir été préparé. D'accord? Et l'intensité de la lumière, elle va être bidouk, exactement selon la préparation qu'on t'a fait. Même pas, tu auras un watt en plus.
En fait, ton destin est dessiné et à toi d'en faire ce que tu veux, positif ou négatif.
Bidouk. Bidouk. Et puis, à toi de rendre. Ça veut dire, tu inclus. C'est quoi le positif et le négatif? Le négatif, c'est sans Hachem. Le positif, c'est avec Hachem. Tu comprends? Ici, il te dit comme ça. Regarde, il te dit, c'est pourquoi certains actes. Il y a fait. Kola Kavod. Kola Kavod. C'est pour ça que je te dis, c'est quoi en réalité la différence entre le bien et le mal? Tout est Hachem.
Tout est Hachem. Le mal, le négatif.
Bien voilé, c'est tout.
C'est-à-dire que.
Que je vois le moi.
Bidouk, parce que tout dépend de ton état d'esprit.
Oui,
la différence entre le bien et le mauvais, d'accord? C'est. Il y a Hachem ou il n'y a pas Hachem. Donc c'est toi qui crée ton histoire. Oui. Si maintenant, par exemple.
Je crois qu'il y a Hachem ou qu'il n'y a pas Hachem. C'est une illusion.
Bien sûr. Hachem, il est partout. C'est toi.
C'est une illusion.
C'est toi. C'est comme on avait dit. Ou je crois qu'il y a Hachem. Et donc, ma vie, je vais avoir une vision, d'accord, différente. Ou alors, tu mets Hachem, comme on a dit, au placard. Et donc, tu as une autre vision. Mais l'histoire, elle est la même.
Et elle est chez moi.
C'est tout. Tout est là. Tout est prêt.
Façon de penser, de croire que parce que j'ai mal agi, du coup, on va se mettre des trucs qui vont nous couper de Dieu, en fait, dans la tête. Tu vois, donc toute cette illusion, toute cette imagination qu'on se fait nous empêche de sortir d'Égypte, en fait. Tu vois,
mais c'est exactement ça ce qui te dit ici. Voilà, c'est que tu te bloques toute seule.
Moi-même, je me suis dit, mais pourquoi tu ne croirais pas qu'Hachem pourrait faire toutes ses bontés vis-à-vis de toi? Et pourquoi pas? Enfin, donc, en fait, on limite nous-mêmes Hachem.
Mais parfois, les bontés, tu les vois, et quand tu les vois, là, tu te dis.
Oui, mais des fois aussi, tiens. Par exemple, moi, des fois, c'est vrai, je sombre, mais dans ces moments-là, après, je me dis, mais.
Ah bon, Agnès, tu sombres? C'est bizarre, nous, non. Nous, pas du tout. Nous, on est toujours au top.
C'est toujours le moment où je sombre. Mais dans ces moments-là, je commence à avoir cette réflexion de me dire, mais attends, et si après tout, tu sortais de la fin, d'un coup, en prenant conscience que. Ça vient de notre imagination qu'on s'enferme dans des prisons mentales. Mais il suffit juste de sortir de là.
Le tiroir.
Tu vois, de se dire, mais non, Agathe Jean-Pro, il n'est que bonté. Et s'il veut, il peut tout changer, il peut tout te faire. Ça.
Mais tu vois bien qu'en réalité, ce que tu dis là, c'est l'essence même du âme Israël. Ça veut dire qu'on a sombré. Et puis, hop, on remonte. C'est ça l'essence. Et c'est sur ça qu'on doit rester. Ça veut dire, tu sais quoi, la chute existe. Et elle est voulue par Hachem. C'est Hachem qui... Parce qu'on a dit maintenant, tout c'est Hachem. D'accord? La chute, elle existe. Et la remontée aussi existe. C'est-à-dire, même quand tu chutes, dis-toi, ok, là je chute. Mais reste attaché à Hachem. Et même si tu t'es déconnecté d'Hachem, rappelle-toi une chose, la tchouva, parce que la tchouva, c'est quoi? C'est se connecter à Hachem, point. Enlève Shabbat, pas Shabbat, Kashrut, enlève d'abord Hachem. Et rappelle-toi d'une chose, la tchouva, c'est ta meilleure copine. C'est ta meilleure amie, la tchouva. Jamais tu vas trouver une amie comme la tchouva. Parce qu'elle est là à chaque fois. Tu sais quoi? Tu lui tournes le dos, tu lui dis « Dégage, je ne veux pas te voir » et tu fais la chanara sur elle et tout ce que tu veux. Juste après, tu dis « Non, mais tu sais, en vrai, je veux être copine. » « D'accord, je reviens tout de suite. » Elle n'a pas d'ego. Elle ne se dit pas « Oui, mais tu m'as fait du mal. » Et tu m'as... Jamais! Tu sais quoi? Jamais. La tchouva, elle est là, prête pour toi. Tout ce que tu veux, je suis là à chaque instant. C'est toi qui décides. Elle est d'une humilité phénoménale. Jamais elle va te dire « Je suis vexée de ce que tu m'as fait. » Non. Tu peux me piétiner, me bafouer, me mettre toutes les ordures de la terre. C'est pas grave, je resterai là pour toi. Tout le temps. Hachem, il a créé la tfila et la tchouva avant le monde. La tfila, c'est ce qu'il y a de plus haut. La tfila, où que tu ailles, tu pourras l'emporter avec toi. Tu es parti sans sac, sans rien, tu as de la bouche. C'est comme une maman, là où ses enfants ils vont, elle va l'accompagner. D'accord? Ta tchila, elle est là tout le temps. Et la tchouva, c'est rien, tu te connectes. Donc, béhémet, qu'à chaque instant de notre vie, on se doit de dire, en réalité, je dois accepter la chute. Je ne dois pas avoir peur de la chute. Pourquoi? Parce que la chute, c'est ce qui va me préparer, d'accord, à mon ascension. J'ai plus peur. Et donc, on en arrive à dire, Bémet, comme il avait dit Rabbi Nathan, en réalité, il n'y a pas de chute. Il n'y a que des élévations. La chute, en réalité, c'est-à-dire que même la chute, maintenant, c'est un dimion. Comment on dit un dimion en français, Karen?
Une imagination.
Une imagination, une illusion. Une illusion, le dimion. C'est ton illusion. Le dimion, c'est-à-dire ta chute, c'est pas une chute. Regarde le Ham Israël, on était en Égypte. La honte que c'était, on était là-bas, machin. Mais regarde, on a reçu la Torah après, hein, quand même. C'est-à-dire que c'était une élévation de fou. Tu comprends que pour arriver à ça, on devait d'abord aller dans les bas-fonds des bas-fonds. Tu n'avais pas le choix. Tu pouvais pas. Tu n'aurais pas pu recevoir la Torah au Har Sinaï si tu n'étais pas d'abord passé par toutes ces chutes. Ça veut dire que, et je veux quand même vous sachiez, hein, c'était la dépravation, mais totale. Ah, tu vas dire, ben quand même, ben oui, il après, fallait...
Je
ne
sais pas pourquoi ils étaient esclaves, mais ils étaient dépravés.
Ben, il y avait de la dépravation. Ah, hein.
Oui.
Ils
étaient au 49e degré. Ben, oui.
49e degré d'impureté, mon ami. Tu sais ce que ça veut dire?
Par rapport
à quoi?
VHM,
non, mamie.
Je pense qu'ils étaient vraiment que esclaves.
Non, non. Mais esclaves de quoi? Ils étaient esclaves de leur tavot. Ils étaient dans les tavot du matin au soir. Ils pensaient qu'à ça. Les tavot. Et les passions, les vices. Les passions, les vices de ce... Tout.
Châtiment.
Non, pas les châtiments. Les tavot, c'est les vices, les passions du monde.
Les tentations.
Les tentations, voilà comment ils écrivent ça. Je sais pas. Écoute une chose. Voilà, il te dit... Il alourdit le joug de Zohar, les passions et vices. Ça veut dire qu'ils étaient que dans ça. D'ailleurs, quand ils étaient dans le désert, ouais. Ils ont dit, oh, la marre, la manne, machin. D'accord, ils en avaient marre de manger Stam. En réalité, pourquoi? C'était les ta'avot. Ils avaient envie, d'accord, des ta'avot.
Ils avaient regretté leur...
Tu comprends? Bien sûr. Ils voulaient rester là-bas, ça leur manquait. Comme un drogué, tu lui dis, tu vas arrêter ta drogue. Alors, sur le coup, il dit, oh, ok, il n'a pas envie. Bon, après, tu le prends un peu, machin. Ok, mais au bout d'un moment, hé, mon frère, je suis en manque, vas-y, donne-moi quelque chose. Tu comprends? C'est pareil pour tout, le sexe, la bouffe, la drogue, l'addiction, quelle qu'elle soit. C'est ça? T'es en manque. Donc, ils étaient vraiment en manque. Tu comprends? Et ne crois pas, même quand ils ont reçu la Torah. On le verra plus tard. C'est uniquement parce qu'ils avaient, d'accord, une pression. S'il n'y avait pas eu la pression de la montagne, d'accord, qui leur dit, je vous la mets sur la tête, sinon... Ils ont dit, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Déjà, on était en train de recevoir la Torah, que déjà, ils étaient en train de tromper Hachem. Les ta'avot, ne crois pas, quand Rabbeinu, il te parle tellement des ta'avot, c'est pas pour rien. Parce que c'est ça qui te plombe. C'est ça qui t'empêche d'accrocher à Kadosh Baruch Hu. C'est ça. Pourquoi? C'est pas la tava. T'acceptes pas la tava parce que t'es une orgueilleuse. Tu comprends? T'acceptes pas de dire oui, c'est vrai, j'ai une tava. Si t'as une tava et que tu acceptes que c'est Hachem qui t'a mis là-dedans, nachon? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, tu acceptes ta tava avec humilité et tu vas chez Hachem comme un enfant qui dit Hachem, si tu m'aides pas, qui c'est qui va m'aider? Moi, je vais rester bloqué dans cette tava. Et tu attends avec humilité. Et tu pries. Et c'est ça le travail. Tout le travail, il est là. Et c'est comme ça que tu sortiras d'Égypte. C'est comme ça que tu vas sortir, ça veut dire, d'accord, de toutes ces tavot. Sinon, si tu ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Et tu vas rester toute ta vie, comme on a dit ici, rester bloqué en Égypte. Et regardez bien, chaque année, on relit la paracha. Tu vas me dire, mais écoute, quand même, la paracha, ça fait l'Égypte, on n'y est plus, on est en Israël, à Tel Aviv, truc. Non, mamie, tu es toujours en Égypte. T'acceptes pas tes tavots, t'acceptes pas tes chutes, t'acceptes pas qui tu es, parce que tu veux paraître très bien. Surtout dans notre société aujourd'hui, d'accord, où le paraître est aussi cruel. Combien de jeunes femmes? Vraiment, que j'entends des filles, des femmes, des petites jeunes qui se marient, elles sont belles, elles sont magnifiques, et qui me disent, je ne me trouve pas assez belle. Pourquoi? À cause de ce Instagram pourri qui crève. Parce que toujours, elle voit mieux, toujours être... Je dis, mais... Et moi, je la vois, je dis, mais elle est tellement belle, comment elle peut croire qu'elle n'est pas belle, la pauvre? Mais pourquoi? Parce que tu auras toujours mieux, mais tu ne vas jamais t'arrêter. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est... Aujourd'hui, on est... Ça veut dire, tu es dans une société qui... Et ça aussi, c'est Pharaon, d'accord, qui t'empêche d'accepter qui tu es, qui t'impose une image, soi-disant la perfection, d'accord, et que tu dois te coller à cette image. Et tant que tu n'arrives pas à cette image, je ne suis pas heureuse et je ne suis pas bien, comme les gens qui sont au poids, qui ont du poids en plus, d'accord. La fille, elle va, elle va aller voir même une diététicienne, la fille, elle lui dit, bon, écoutez, vous avez, selon moi, diététicienne, 5 kilos à perdre. Elle la regarde, elle dit, mais non, je n'ai pas 5 kilos, j'en ai 10, j'en ai 15. La diététicienne, elle lui dit, non, selon ce que je vois, c'est 5. Eh bien, elle ne va pas accepter. Pourtant, tu as été voir une pro, c'est son métier. Parce que tu te bloques, d'accord, par rapport à la folie qui t'est rentrée dans la tête, qui est justement de ne pas accepter. De ne pas accepter des réalités, c'est des choses comme ça. Alors, Bezrat Hashem, je nous souhaite à nous toutes, si Dieu veut, de sortir d'Égypte cette semaine, Bezrat Hashem, de nos folies, de ne pas avoir peur, d'accord, de faire un pas, 10 pas chez Hashem, chacune selon sa compréhension, chacune selon sa capacité, sans se mettre des barrières et sans se fermer, se dire, tu sais quoi, je vais être libre. Tu veux t'exprimer chez Hachem en criant, eh bien, va crier. Tu veux t'exprimer chez Hachem en chantant, en, tu sais quoi, en achetant un truc, en disant, voilà, je le fais pour Hachem. Fais-le. Ce que tu fais, fais-le avec ton cœur. C'est ça l'essentiel. Bezrat Hachem Yitbarar, qu'on ait ce mérite si Dieu veut. Amen. Tiens.
Prochain voyage au mois de juin. Non mais il y a plein de voyages qui s'organisent toute l'année.